Bienvenue dans les Bulles Nomades, le podcast créatif et slow. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. J'ai envie d'aborder la question de prendre soin de soi. Un sujet que je pense important dans notre vie quotidienne et qui est plein de préjugés négatifs d'un côté, tandis que de l'autre, c'est un argument utilisé dans la publicité et l'incitation à la consommation. J'ai commencé à m'intéresser à ce genre de sujet quand j'étais étudiante en échange à Tokyo, seule à l'autre bout du monde. Ma première histoire d'amour venait de prendre fin et je me sentais très isolée dans une culture que je ne comprenais pas, loin des gens que j'aime. Autant vous dire que, en tout cas les premières semaines de mon arrivée au Japon, c'était pas la meilleure période de ma vie. Et je me souviens que ma mère m'avait envoyé un colis plein de livres, de philosophie, de psychologie et de développement personnel, notamment une lecture marquante, toujours d'actualité d'ailleurs si vous ne connaissez pas, qui s'appelle « Imparfait, libre et heureux » par Christophe André, qui est un livre qui a changé beaucoup de choses pour moi. Et en parallèle de ça, j'étudiais la culture et l'art japonais, notamment avec une notion qu'on connaît peu, en tout cas sous cette forme-là dans la culture occidentale, qui est l'idée d'impermanence. C'est-à-dire l'idée qu'on est entouré d'instants éphémères à capturer avant qu'ils ne s'envolent, parce qu'ils s'envoleront qu'on les remarque ou pas. Comme par exemple les fameuses fleurs de cerisier qui éclosent pendant quelques jours avant de s'envoler au vent. Du coup, c'est un instant, un moment qui dure quelques jours par an. Et si on n'en profite pas, eh ben, il nous passe sous le nez. Et ça, c'est une philosophie qui est hyper présente dans la culture japonaise en général et beaucoup en lien avec les saisons. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en tant qu'artiste, j'ai lancé le projet 24 saisons parce que je trouve que c'est une hyper bonne manière de s'ancrer dans le présent et de profiter des petits riens du quotidien. Et donc du coup, c'est à cette époque que j'ai été touchée pour la première fois par cette idée de revenir au présent, de se concentrer sur les petits riens du quotidien qui méritent d'être remarqués avant que ce soit trop tard. Et du coup, comme les Japonais sont très attachés aux saisons, j'ai passé une année à repérer les évolutions naturelles et culturelles des saisons à Tokyo, au Japon. Donc des feuilles d'érable d'un rouge vibrant aux fêtes de fin d'année et célébrations de saison. Donc le nouvel an, la Saint-Valentin à la japonaise, la journée des filles le 3 mars, la journée des garçons le 5 mai, l'arrivée des fleurs de cerisier en avril, les pluies du mois de juin, Tanabata le 7 juillet qui est une fête japonaise là-bas, qui marque vraiment le début de l'été sec après la saison des pluies. Les feux d'artifice et les fêtes en plein été, etc. C'est une année où je me suis vraiment recentrée sur moi, en fait. Où j'ai pris soin de moi, vraiment consciemment, pour la première fois de ma vie. Alors que ça faisait des années que je jonglais entre études et petits boulots. Toujours le regard focalisé sur mon prochain objectif. Et en l'occurrence, à l'époque, mon prochain objectif, c'était justement de décrocher un échange au Japon. Et du coup, maintenant que c'était fait, et que j'étais dans ce pays dans lequel j'avais envie d'habiter pendant un an. Cette année a été une parenthèse pour moi. Même si j'ai étudié et travaillé là-bas aussi, on se refait pas. C'était quand même un moment où je pouvais enfin penser un petit peu à moi, et où quelque part j'avais cette idée qu'il fallait que j'en profite, parce que c'était une fois dans ma vie cet échange d'études au Japon, c'était une année, après j'allais rentrer en France, donc il fallait que j'en tire le meilleur, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pu davantage mettre mon attention sur le fait de profiter de l'instant, de prendre soin de moi, etc. Et en plus de ça, loin de mes repères et de mes proches, j'en avais bien besoin. Et en plus de la contemplation des saisons, c'est aussi à cette époque-là que j'ai pris de petites habitudes, en fait, de soin de moi. Donc par exemple, ramener un bouquet de fleurs fraîches à la maison. Une fois par semaine, prendre des bains. Oui, ma chambre étudiante de 8 mètres carrés avait une petite baignoire profonde qui était hyper agréable à utiliser. Ça pouvait être aussi visiter la ville et les régions alentour dans des sorties, soit toute seule, soit avec des amis étudiants, qui étaient guidés par la curiosité et l'émerveillement, c'était vraiment top. C'était aussi tester de nouveaux plats à cuisiner, nourrir mes mains d'une crème au karité qu'un élève français m'avait conseillée. C'est la crème au karité de l'Occitane si ça vous intéresse, et 15 ans plus tard, c'est encore la référence à laquelle je reviens hein, pour prendre soin de mes mains. Petite parenthèse. Et plus tard, à mon retour en France, le cours tumultueux de la vie a repris le dessus, même si j'ai gardé avec moi quelques habitudes que j'avais prises pendant cette année au Japon, des habitudes que j'ai encore aujourd'hui. J'ai décroché mon master de japonais, puis mon master de communication. Puis j'ai fait mon stage de fin d'études, j'ai décroché un CDD, puis un CDI. Je suis vraiment rentrée dans le grand bain de la vie d'adulte quelques années après mon voyage au Japon. Et à cette époque-là, c'est en découvrant le mouvement slow que cette notion de prendre le temps de vivre, qui est pour moi l'essence de prendre soin de soi, est revenue à ma conscience. Donc je vous laisserai vous renseigner plus en détail si ça vous intéresse hein, sur ce que j'appelle le mouvement slow. En deux mots, c'est une tendance qui existe depuis les années 90-2000, je crois, qui remet en cause l'accélération perpétuelle de la vie. C'est un mouvement qui naît notamment en Italie, avec le mouvement slow food, qui était un petit peu contre tout ce qui est McDo et tout ça, pour préserver en fait le temps de manger, le temps de cuisiner, etc. Et après ça s'est vachement répandu dans d'autres domaines de vie. Et donc si vous connaissez pas du tout, je vous invite à lire Éloge de la lenteur par Carl Honoré, qui a été ma lecture introductive au mouvement slow et à la philosophie slow. Donc j'ai découvert ça à cette époque, et au fil des années, j'ai appris à prendre soin de moi, petit à petit, avec un cheminement fait de hauts et de bas, de réussite et d'échecs, d'expérimentation et d'oubli. J'ai quand même fait un burn-out il y a 5 ans, hein, donc on peut pas dire que mon parcours ait été particulièrement exemplaire en termes de prendre soin de moi et de prendre le temps de vivre, mais en tout cas j'ai essayé. Depuis 15 ans, c'est quelque chose que j'essaye et que vers lequel j'essaye de m'approcher et où j'expérimente, etc., etc. Et en fait, à chaque étape un peu difficile de ma vie, notamment à l'époque de mon burn-out, je me suis souvenue de l'étudiante qui était seule à 10 000 km de tout son univers, dans sa petite chambre, qui s'achète un bouquet de fleurs et prend un bon bain avec des sels parfumés pour traverser les difficultés et profiter du moment tant qu'il est là. Et je me suis un petit peu reconnectée à cette expérience-là au fil des années. Et en fait, ce que je trouve intéressant quand je repense à ce parcours-là, à mon parcours, c'est que ça reste quelque chose auquel je dois travailler au quotidien. C'est-à-dire, je dois, même s'il y a des habitudes qui sont ancrées aujourd'hui, et qu'au fur et à mesure des années, j'ancre de plus en plus d'habitudes, et heureusement, il reste quand même une sorte d'effort à fournir quelque part pour placer mon attention sur le fait de ralentir, de prendre le temps de vivre, d'oser prendre soin de moi, consacrer du temps aux soins de moi. Et pourquoi est-ce que c'est pas naturel? Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile dans la société d'aujourd'hui de prendre le temps de prendre soin de soi? Parce que quelque part, prendre le temps de vivre en tant qu'être organique, ça devrait couler de source parce que c'est juste notre existence en fait. Les animaux, ils prennent soin de leurs besoins, les chats, ils mangent, ils dorment, ils se lavent. C'est naturel pour eux, ça devrait être naturel pour nous en tant qu'être organique. Pourquoi est-ce que ça ne l'est pas? Et mon petit doigt me dit que je suis loin d'être la seule à avoir du mal à prêter attention à mes besoins et à prendre du temps pour moi. Donc déjà, pour moi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est difficile de prendre soin de soi dans la société moderne. Et donc déjà, il y a la question de l'accélération constante de la société, le fait qu'on met sur un piédestal la productivité, la rentabilité à tout prix, qui fait qu'on relègue ces moments pour soi au rang d'activités inutiles, des activités à éliminer pour optimiser notre rentabilité. Enfin, on vit quand même dans une société où on doit se battre pour conserver nos 8 heures de sommeil par nuit, qui est quand même un besoin fondamental d'être humain. Je trouve ça absolument dingue, hein, soit dit en passant. Et ces dernières semaines, j'ai analysé un petit peu mon quotidien, c'est peut-être pour ça que j'aborde ce genre de sujet en podcast aujourd'hui, parce que c'est un petit peu le... Je baigne un petit peu là-dedans dans ma propre introspection depuis quelques semaines, pour remettre à plat mon mode de vie, et je souhaite remettre mon attention sur le fait de mener une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. J'ai envie de m'aligner avec cette philosophie slow qui est si importante pour moi. Et dans cette analyse-là, où je me suis demandé pourquoi est-ce que je ne vis pas une vie aussi sereine, aussi lente, aussi tranquille que ce que je souhaite depuis 15 ans. Et une des réponses qui est ressortie dans mon introspection, c'est tout simplement que j'ai automatiquement mis ces activités de soins de moi, donc par exemple créer pour me détendre ou m'inspirer sans but de vendre quoi que ce soit, cuisiner des bons légumes aux épices, lire un livre avec un thé après le repas, toutes ces petites choses qui me font du bien. Et en fait, je les ai reléguées tout en bas de mon échelle de priorité. C'est-à-dire que par défaut, je considère qu'elles ne méritent pas mon temps, ou qu'elles méritent beaucoup moins mon temps que les activités jugées productives finalement de mon quotidien. Donc par exemple, si j'ai un podcast en retard, plutôt que de me dire « eh ben tant pis, les bulles nomades, elles auront une semaine de retard et puis je vais aller faire mon sport », eh ben non, je vais venir enregistrer ce podcast en retard sur mon heure de sport et remettre mon activité physique au lendemain. Si j'ai une activité professionnelle qui a pris plus de temps que prévu, je vais écourter ma pause midi pour y revenir. Donc terminer cette tâche professionnelle qui n'a pas forcément une urgence extrême sur le moment va quand même prendre la précédence sur le fait de profiter de ma pause midi. En fait, les activités de soins de moi sont devenues le fusible qui saute quand j'ai mal évalué le temps que prennent les choses ou quand je mets la pression à beaucoup produire, par exemple. Et ça, c'est le résultat du culte de la productivité, de la rentabilité dans notre société moderne. On s'auto-exploite au lieu de s'honorer, au lieu de s'écouter et au lieu de subvenir à nos propres besoins d'être organique parce qu'on n'est pas des machines et on a tendance à l'oublier. Donc oui, les activités de soins de soi, de la séance de sport au bain parfumé, en passant par la cuisine, la marche au parc, etc., méritent mon temps. Elles méritent votre temps. Ensuite, une autre raison pour laquelle je pense que c'est pas évident de prendre soin de nous dans le monde moderne, c'est tout le jugement social autour de ça. Et ça, c'est en écoutant la génération au-dessus de la mienne, c'est-à-dire en écoutant ma maman, ma grand-mère, ma grand-tante, que j'en ai pris conscience parce que c'était encore plus prégnant dans les générations au-dessus par rapport à notre génération à nous. Et oui, je mentionne les femmes de ma famille parce que ce message touche beaucoup, en majorité, les femmes, même si nous sommes toutes et tous affectées par cette idée. Et en fait, c'est cette idée sociale que prendre du temps pour soi, c'est quelque chose qui est égoïste. C'est très judéo-chrétien comme notion, hein. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il faut être dans le sacrifice, tout faire pour les autres, et si on ose prendre du temps pour nos propres besoins, alors nous sommes égoïstes. Nous sommes des monstres qui allons laisser tomber tout le monde qui a besoin de nous. On va devenir les paresseux, les gens qui sont au crochet de la société, c'est complètement inadmissible, etc. Et du coup, en fait, il y a une sorte de culpabilité diffuse, peut-être en partie inconsciente, parce que c'est la culture dans laquelle on baigne depuis qu'on est né, si vous voulez, en tout cas si vous avez grandi dans la même culture que la mienne. Et donc il y a une sorte de culpabilité diffuse à ralentir, à faire une pause, à s'écouter, à s'occuper de nous-mêmes, quand on pense à tout ce qui est attendu de nous, c'est-à-dire tout le travail à faire, la maison à gérer, les enfants à aller chercher, la cuisine à faire, toutes ces choses d'adultes en fait. C'est comme si on opposait le fait d'être un adulte responsable avec toutes les tâches et les obligations qui vont avec et le fait de prendre soin de soi. Comme si prendre soin de soi, c'était irresponsable. Et c'était comme des grands adolescents quoi, qui passent leur temps devant la télé, à jouer aux jeux vidéo, à bouffer des chips, plutôt que de faire leur devoir d'adulte responsable. Voyez. Et en fait, ce qui me dérange profondément dans cette vision des choses, c'est que ça sous-entend que l'être humain est naturellement égoïste et paresseux, et que si on ne l'oblige pas à s'occuper des autres par des règles sociales et par de la culpabilité, eh ben, cet être humain va naturellement passer son temps à manger des pots de glace devant Netflix, sans se préoccuper de ses obligations envers la famille, le travail ou la société. Et donc, il faut nous culpabiliser pour nous faire rentrer dans le rang, pour nous forcer à penser aux autres, parce que naturellement, on serait égoïste en tant qu'être humain. Et moi, je suis en profond désaccord avec cette vision de la nature humaine, qui nous vient en fait de la révolution industrielle, soit dit en passant, où les patrons des mines trouvaient les ouvriers vachement paresseux, des mines et des usines, voilà, trouvaient les ouvriers vachement paresseux. Et d'où nous vient cette idée un peu affreuse du travail, cette vision affreuse du travail de type salarié qui est née à cette époque en fait, qui n'existait pas tellement avant en fait, où il faut subordonner les employés pour les forcer à bosser et les surveiller en permanence parce qu'ils seraient naturellement paresseux et que si on ne les flique pas, eh ben ils ne travailleront pas. Comme si la paresse était dans notre nature, quelque part. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que les humains ont un besoin inné d'apprendre, de grandir, de donner du sens à ce qu'ils font. Et qu'au contraire, nous sommes une espèce créative, ambitieuse, et que si on était une espèce paresseuse, on n'aurait jamais accompli tout ce que les diverses civilisations humaines ont fait au fil des millénaires. On serait encore dans notre jungle, au fin fond de l'Afrique, à avoir une dizaine de milliers d'humains, et on n'aurait pas du tout fait tout ce qu'on a fait, même s'il y a des choses qui sont très discutables dans les accomplissements de la civilisation humaine, on est d'accord, mais il n'empêche que si on était une espèce naturellement paresseuse, on n'aurait jamais fait tout ça. Donc moi, je trouve que c'est une vision réductrice, condescendante aussi d'une certaine élite vis-à-vis d'une classe travailleuse, de l'être humain de dire qu'on serait naturellement paresseux et que si on nous force pas par la culpabilité à penser aux autres, naturellement on ne penserait pas aux autres. Moi je suis pas du tout d'accord avec cette vision des choses. Après, bien évidemment, que quand on disait aux ouvriers de descendre à la mine 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour un salaire qui nourrissait à peine leur famille, avec des risques d'effondrement, de grisou, les poumons pleins de charbon et de machin au bout de 20 ans dans la mine, tu m'étonnes qu'il fallait les forcer à travailler, ils n'en avaient pas très envie, et c'est bien normal. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Ce que je veux dire par là, c'est que non, prendre soin de soi n'est pas égoïste, et je pense que cette croyance sociale est même dangereuse. Parce que bon, faudrait pas qu'on commence à faire attention à nos envies et nos besoins, et puis que du coup on ait plus envie de descendre à la mine, vous voyez ? Ou à la version moderne de la mine, à savoir aller dans les open space et puis obéir à l'employeur sans jamais rien remettre en question. Ou bien, mesdames, il faudrait pas que d'un seul coup, on ait plus envie de cuisiner, faire le ménage et s'occuper des enfants toutes seules sans broncher, vous voyez ? C'est-à-dire que pour moi, le fait de nous culpabiliser, de vouloir s'écouter et écouter nos besoins et se demander ce que nous on veut, enfin pour moi c'est une forme d'oppression en fait. Bref, l'épisode a pris un tournant social inattendu, c'était pas le but, mais je pense que c'est important, parce que c'est un sujet qui fait partie de pourquoi on a cette vision sociale en fait, du soin de soi. Mais pour recentrer le sujet, j'ai envie de vous proposer l'idée que prendre soin de soi, c'est l'inverse de l'égoïsme. C'est ce qui nous permet de nourrir nos besoins organiques, pas des machines, hein, rappelez-vous. Et lorsqu'on est en bonne santé physique, mentale et émotionnelle, nous sommes beaucoup plus en capacité d'être là pour les autres, puisqu'on a l'énergie et l'équilibre émotionnel pour le faire. Donc pour moi, c'est vraiment l'inverse de l'égoïsme. Prendre soin de soi, c'est ce qui nous permet d'être là pour les autres. Et j'ai même une vision opposée du soin de soi comme étant égoïste, puisque je pense, personnellement, c'est un avis très très personnel, hein, mais je pense qu'en tant qu'adulte, c'est notre responsabilité envers nos proches et envers la société de prendre soin de nous et de s'équilibrer en fait, de s'écouter et d'être équilibré physiquement, mentalement, émotionnellement, etc. autant que possible. Parce que quand on prend soin de soi, on est ensuite en capacité d'établir des relations plus saines et équilibrées avec notre entourage. On peut être de meilleurs partenaires de vie, de meilleurs parents, de meilleurs collègues, de meilleurs chefs, etc. Et justement, ça nous permet ensuite d'avoir quelque part une influence positive autour de nous, en fait. D'apporter une énergie où parce que nous, on se sent mieux, on se sent plus équilibré, nos besoins sont remplis, on va être en mesure de se tourner vers les besoins des autres et d'être là pour les autres, plutôt que de rester dans ces cercles de culpabilisation, de victimisation et de relations toxiques qui peuvent apparaître dans certains cas dans les relations humaines quand on ne prend pas le temps de combler nos propres besoins et qu'on attend des autres qui comblent nos besoins. Mais ça, c'est aussi le sujet pour un autre jour, la question de combler nos propres besoins humains. Mais en tout cas, voilà, je pense que le changement de la société passe par le changement de soi et qu'en tant qu'adulte responsable, il est de notre responsabilité de tendre à nos propres besoins. C'est notre rôle, ce n'est pas le rôle des autres. Et non, ce n'est pas parce qu'on décide que prendre soin de soi et de nos besoins mérite notre temps que, d'un seul coup, nous devenons des monstres d'égoïsme. Maintenant que tout cela est dit, que veut dire prendre soin de soi exactement ? Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller et les paliers voyageurs et plus ont accès au script des podcasts en PDF. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui me soutiennent déjà. Que veut dire prendre soin de soi selon moi ? C'est vraiment ma définition personnelle. À vous de voir ce que ça vous évoque et comment vous pouvez vous l'approprier dans votre propre vie. Je pense que le sujet peut faire l'objet d'un épisode à part entière et fera peut-être l'objet d'un épisode à part, puisque ça fait déjà 20 minutes que je vous parle, mais quelques pistes pour entamer la réflexion. Une chose que j'ai découverte l'année dernière, c'est que pour moi, la base du soin de soi, c'est l'amour de soi. Et ça aussi, ça peut avoir une connotation négative dans notre société et être confondu avec de l'arrogance ou avec un sentiment de supériorité. On en reparlera si vous voulez, hein. Ça aussi, ça mérite un épisode à part entière, je pense. Mais pour moi, l'amour de soi, c'est tout simplement être là pour soi. Étendre la compassion, la gentillesse et la compréhension qu'on a envers nos proches à nous-mêmes. Se traiter soi-même comme on traite les gens qu'on aime, avec bienveillance, compassion, mais sans complaisance. Vos enfants, si vous en avez, vous leur dites bien de manger leurs légumes et de se brosser les dents. Et ben c'est pareil avec l'amour de soi. L'amour de soi, c'est faire ce qui est le mieux pour soi, parce qu'on se veut du bien. Donc parfois, prendre soin de soi peut effectivement prendre la forme de regarder une série avec un pot de glace, parce qu'on a besoin d'un moment de détente. Mais c'est peut-être aussi plein d'autres choses auxquelles on pense pas forcément, parce qu'on a cette vision un petit peu complaisante du soin de soi. Prendre soin de soi, c'est aussi, par exemple, prendre le temps d'interroger nos émotions en écrivant dans un journal, nettoyer notre maison pour qu'on s'y sente bien, prendre un atelier de cuisine pour pouvoir mettre plus de légumes dans notre alimentation, revoir notre organisation professionnelle pour être moins stressée et avoir moins de charge mentale, etc., etc. Ça peut prendre la forme d'activités, en fait, qui sont pas forcément agréables sur le moment, mais qui remplissent nos besoins. On prend soin de notre moi futur. Je paye mes factures maintenant, ce qui n'est pas particulièrement agréable, pour que mon moi futur n'ait plus cette charge mentale et n'ait pas de majoration à payer, par exemple. En fin de compte, pour moi, prendre soin de soi, c'est honorer mon humanité, honorer mon être intérieur, mes besoins, mes limites. C'est, d'un côté, c'est prendre soin de mon animal, comme dit Elisabeth Gilbert, c'est-à-dire subvenir à mes besoins d'être organique, la santé physique, bien manger, dormir, bouger, la sérénité, contrebalancer le stress du monde moderne, la fameuse opération manger, bouger, dormir, ralentir, dont on reparlera très vite, c'est la saison. Mais c'est aussi prendre soin de notre âme humaine en quelque sorte, c'est-à-dire vivre en accord avec nos valeurs, trouver du sens à notre vie, répondre aux besoins qui sont d'ordre mental, émotionnel et spirituel. Tout ça, ça fait partie du soin de soi, selon moi. Et comme je le disais plus tôt, mais ça mérite d'être répété, non seulement ce n'est ni frivole ni égoïste, mais je vois cet acte comme essentiel. Changer le monde, ça commence par se changer soi. Renouer avec le vivant en nous, renouer avec nos besoins, nos émotions, nos aspirations, ce qui nous fait vibrer en tant qu'être vivant. Parce que c'est de là qu'ensuite on peut rendre à l'écosystème, contribuer au-delà de nous-mêmes, partager cette énergie qu'on cultive et qu'on préserve en prenant soin de nous. On peut ainsi être là pour nos proches, mais aussi contribuer au-delà de tout ça, si on se sent appelé à le faire. Et c'est par là que commence le changement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je trouve le sujet passionnant et je pense qu'on reparlera de prendre le temps de vivre et tous les aspects que ça prend dans de futures bulles nomades. Si vous avez des questions ou réactions, vous pouvez les laisser sous les notes de l'émission sur floriteller.com/bn156 ou en me contactant via floriteller.com/contact. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !